c'est bon à savoir.
Avec Fred, Ingrid et Stéphanie, on continue de parler de pouvoir d'achat, de nos courses au supermarché avec les emballages cette fois.
Eh oui, côté écolo, figurez-vous mes amis, 600 millions de tonnes de déchets produits en France chaque année, plus 5 millions de tonnes d'emballages ménagers. La France et toute la terre entière d'ailleurs est en train de se poser des questions sur les éventuelles issues écologiques à toute cette production de déchets, entre autres effets de gaz à effet de serre. Alors on a parlé du Grenelle de l'environnement en octobre dernier, on parle régulièrement avec vous Fred de l'art et la manière de trier ses déchets. Je vous propose aujourd'hui un petit inventaire sur l'avenir et le réel impact environnemental des emballages alimentaires, quand même 8e industrie mondiale, c'est énorme. Enfin quand je dis je, ce n'est pas moi, c'est vous Fabrice Pelletier, photographe, designer et président de Préférence, une agence de design dans l'emballage. Vous êtes l'auteur avec Henri Saporta d'un ouvrage très pratique, utile et très design qui vient de paraître aux éditions IDEPAC et qui s'intitule Éco-design, chemin vertueux. Alors ça c'est un titre plein de promesses.
Oui, bonjour. Oui, c'est un titre plein de promesses. Je veux juste reprendre sans faible, et on va pas aller très très loin sur les chiffres, puisque j'ai les derniers chiffres de 2006. L'industrie globale, la France, produit 849 millions de tonnes de déchets par an, donc c'est énorme. Et ces déchets d'emballage dont nous parlons tous représentent 4,4 millions de tonnes. Donc un très très faible pourcentage en fait de ces déchets. Cela dit, effectivement, ces déchets d'emballage, on peut les dire vertueux, puisque à date, et il faut améliorer les choses, 2,9 millions de tonnes de ces 4,4 millions sont recyclées, d'ores et déjà recyclées. C'est-à-dire qu'avec des emballages en verre, on continue à faire des emballages en verre. Avec des emballages en métal, on fait des caddies, des vélos avec l'aluminium. Avec des emballages en plastique, des fourrures polaires et d'autres emballages en plastique. Donc, il y a quand même une certaine vertu dans
le recyclage. Du coup, il reste quand même combien de millions de tonnes ?
Il reste 1,5 million de tonnes.
Voilà.
Qu'il faudrait pouvoir recycler, qui sont produits. Et là où il faut aider le consommateur remettre ces 1,5 million de tonnes dans les bons bacs de tri sélectif, l'aider à le faire, l'aider aussi à les reconnaître de manière à améliorer. Mais on est sur un delta qui, je veux dire, par rapport à la somme des déchets est relativement faible.
Alors vous dites qu'on a un peu trop tendance à accuser les emballages alimentaires de s'être lancé dans une espèce d'économie d'abondance, comme les produits qu'ils contiennent. Vous tempérez un petit peu le propos en disant qu'ils ont commencé leur révolution écologique il y a déjà 15 ans. Alors par quel changement ça s'est traduit concrètement en termes de matière et de design, puisque vous êtes designer aussi à l'origine?
Voilà, absolument. Il y a 15 ans, on avait un ministre de l'écologie qui s'appelait Brice Lalonde et qui Pardon.
Non, petite parenthèse.
Ça n'a rien à voir.
Voilà. Donc, ce monsieur Brice Lalonde a posé un décret en 92 qui a fait qu'à partir de 1993, on a commencé à avoir des bacs de tri sélectif dans les communes et on a demandé aux consommateurs de mettre les bouteilles en verre à un endroit, les bouteilles en plastique, etc. à un endroit. Donc, ce qui fait que sur une quinzaine d'années, on est arrivé à ces taux de recyclage. Mais ça a aussi un effet pervers, c'est que ça a montré, ça a stigmatisé un peu les emballages comme les déchets, puisque le consommateur le voyait, c'est peut-être la seule chose qu'il voit, c'est que tous les jours on est confronté à un emballage. Là, on en a devant nous pour boire de l'eau, on en a chez nous, il n'y a pas une minute où on n'utilisera pas un emballage.
Ce que vous dites, c'est qu'il y a plus d'emballages, mais les emballages ont ce mérite-là, c'est de pouvoir être recyclés comparé aux autres déchets.
Absolument. La différence avec les 949 millions de tonnes de déchets, c'est que les emballages ne sont pas des déchets toxiques, puisque déjà on met des aliments à l'intérieur, et que ce sont des déchets quasiment tous recyclables pour refaire quelque chose. Tous les autres déchets qui sont mis soit dans la nature, je fais souvent l'exemple et les auditeurs le comprendront, avec l'huile de friture. Vous allez remplir votre friture avec 4 litres d'huile en moyenne, donc vous allez avoir deux gros bidons pas beaux, vides. Et je dis souvent, mais ces bidons pas beaux d'huile vide sont recyclables. Donc, mettez-les dans le bon bac de tri sélectif. Et je demande, mais vous faites quoi de l'huile? Combien d'auditeurs, combien même autour de la table, mettent cette huile dans les WC, dans l'évier? Et ça, c'est, mais 100 fois plus dommageable aux nappes phréatiques et à l'environnement que cet emballage que vous devez mettre dans le bon.
Alors qu'est-ce qu'on en fait,
c'est à manger, il faut en faire quoi?
Ben, cette huile, il faudrait la remettre. Donc il y a des pays en Europe où on récupère ces huiles. Aujourd'hui, on peut récupérer ces huiles pour faire du carburant. On parle des biocarburants, mais pour faire des carburants. Et c'est tout un des systèmes qui doivent se mettre en place pour aider justement les gens, les consommateurs, à remettre tous leurs déchets au bon endroit. L'homme, depuis qu'il est né, il a fait des déchets. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Quasiment tous les déchets que l'homme produit sont réutilisables, recyclables ou dégradables. Le tout est de le mettre au bon endroit.
Donc il faut inventer ces nouvelles
structures. Il faut inventer et il faut aider les consommateurs. Vous avez complètement raison. Il y avait ce qu'on fait de ces déchets. Il y a pas longtemps, j'avais fait un article sur un flacon d'huile qui avait un petit entonnoir pour récupérer l'huile. C'était bien, mais il faut quand même penser à garder son ancien bidon parce que avant de remplir d'huile usagée, on doit vider, c'est un peu l'œuf et la poule. Donc trouver, et puis c'est aussi des gestuels des consommateurs, c'est à nous de nous éduquer et petit à petit se dire,
c'est sûr que si on pouvait directement passer le dimanche après-midi de l'huile de la friteuse dans le moteur de la voiture, dans le réservoir de la voiture, aller se faire un petit tour, ça serait pas mal.
Stéphanie.
On va citer quand même quelques exemples d'industries d'emballage qui se sont un peu lancés dans cette lutte écologique.
Avec des solutions innovantes.
Voilà, Tetra Pak par exemple, qui s'est lancé comme objectif de réduire ses émissions de gaz carbonique de 10% entre 2005 et 2010, et aussi d'utiliser de l'encre à eau à la place de solvant. Ça, c'est un exemple d'entreprise à part, ou c'est un espèce de mouvement qui commence à se développer?
C'est une entreprise pionnière dans le domaine, Tetra Pak, puisqu'elle a été fondée un petit peu sur ses bases, mais c'est aussi une démarche. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la problématique réelle de l'emballage n'est pas une problématique du déchet, mais une problématique du cycle de vie. Le cycle de vie, c'est quoi? C'est l'extraction des matières premières, c'est la transformation des matières premières, c'est la fabrication des emballages, le remplissage, etc. Et autour de tout ce cycle de vie, vous avez des camions. Des camions qui relient chaque élément. Et la véritable problématique, et le Grenelle de l'environnement l'a souligné, c'est une problématique, les principales émissions de CO2 sont liées au transport. Donc, pour exemple, si vous prenez une bouteille d'un litre de verre, par exemple, qui est produite à un endroit, pour aller se faire remplir, elle prend un camion, et dans un camion, on met X bouteilles de 1 litre. Avec les emballages Tetra Pak, par exemple, qui sont à plat, on va mettre 900 000 litres dans le même camion, donc on va utiliser 26 fois moins de camions pour transporter des emballages vides. Et ça, pour la planète, c'est...
Voilà un exemple de solution innovante.
Voilà, juste, ça fait 22 ans que vous dessinez des emballages. Juste en quelques mots, à quoi ressembleront les emballages de demain, nos rayons supermarchés?
Alors, les emballages de demain seront beaucoup plus légers. Ils ont déjà une cure d'amaigrissement énorme. Ils seront aussi composés d'un seul matériau. On va aller plus sur des emballages en monomatériaux que plein de...
Plus facile à recycler, du coup.
Plus facile à recycler, à compacter. Mais il y en aura toujours autant parce que
ils
nous servent à manger.
un pack de lait. Donc voilà, ça s'appelle Éco-Design Chemin Vertueux, c'est aux éditions IDEPAC, et puis donc ça a été écrit par vous, Fabrice Pelletier et Henri Saporta.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci.